Alors, c'était un peu nouveau de vous interroger sur l'économie. Ça fait quelques années qu'on le fait maintenant. Mais en tout cas, il y a des sujets sur lesquels les médias ne vous interrogent jamais. Et j'aimerais, ou très très peu, j'aimerais qu'on y vienne. J'en ai pris deux au hasard. Et ma première question concernera le secteur de la santé. Vous le savez, 2 à 3 millions de Français vivent dans un désert médical, c'est comme ça qu'on les appelle, loin d'un médecin généraliste, en fait, à la campagne comme dans les quartiers défavorisés. Et le phénomène s'aggrave puisque de nombreux médecins partent à la retraite sans trouver de repreneurs, de successeurs. Ça, c'est un vrai problème de société, Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir et comment faire pour y remédier ?
Bon, d'abord, il va falloir revenir sur l'erreur absolument spectaculaire et historique qui a été faite de limitation du numerus clausus des médecins. On se retrouve dans une situation où on importe plus de médecins qu'on en forme chaque année. Et donc on va chercher des médecins de plus en plus loin dont les compétences ne sont pas toujours d'ailleurs à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre du système de santé français. Plus il y a de médecins, plus les médecins iront s'installer dans les endroits où ils peuvent gagner leur vie. Et bien souvent, ils ne vont pas à la campagne, non pas tant parce qu'ils ne veulent pas être dans la ruralité, que parce que c'est trop de travail, parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, donc il faut les multiplier. Pour les multiplier, il faut libérer le numerus clausus. Et puis, il faut arrêter la concentration des hospitalières telle qu'elle est menée, avec les conséquences que l'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut absolument que des structures moyennes puissent persister, puissent exister, des maisons de santé, ce qui aujourd'hui n'est pas la voie qui est choisie.
Alors, mi-décembre dernier, la ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Marisol Touraine, dévoilait un plan d'action pour lutter contre les déserts médicaux. Il comprenait 12 engagements, parmi lesquels un stage obligatoire en cabinet libéral pour tous les étudiants en médecine générale ou encore 1500 bourses d'engagement de services publics par an d'ici 2017. Vous le connaissez, ce plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va dans le bon sens?
Oui, ça va. Oui, ça va dans le bon sens. Mais encore une fois, de toute façon, on sait que les erreurs qui ont été faites ne seront pas réglées avant 10 ans. Puisque le numerus clausus, la moyenne de formation d'un médecin, c'est 10 ans. Donc à partir du moment où on dessert le numerus clausus aujourd'hui, de toute façon, avant 10 ans, on aura des problèmes considérables en matière de santé. Puis il y a un autre phénomène, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas soigner toute la misère du monde aussi. Et une des raisons de l'engorgement et des difficultés majeures que subissent un certain nombre de milieux hospitaliers, c'est lié au fait qu'on a créé les conditions d'une immigration sanitaire, qu'on est obligé aujourd'hui d'assumer, avec peut-être demain des conséquences beaucoup plus graves que le simple engorgement des services qui y sont consacrés.
J'entends bien, vous n'êtes pas sans savoir que c'est évidemment pas ça qui ruine l'hôpital public dans les pourcentages qui sont dévoilés dans les comptes de la sécurité sociale. Ça fait partie, hein, c'est à hauteur de 10%. C'est un pourcentage qu'il ne faut pas négliger.
C'est vrai qu'on s'approche de l'aide médicale d'État s'approche aujourd'hui de la barre de 1 milliard d'euros par an.
Oui, mais vous savez que le déficit de la sécurité sociale est immense. J'aimerais qu'on parle, puisque vous en parlez, des problèmes de l'hôpital public. Sur votre site internet, réagissant à la mort d'un enfant à naître dans la maternité de Port-Royal qui a ému tout le monde, Joëlle Melin, qui est votre déléguée nationale au projet, conseillère politique en matière de santé et elle-même médecin de formation, parle d'un cocktail explosif concernant la situation de l'hôpital public en manque cruel de moyens, tant humains que financiers. Alors, on entend son diagnostic, il est particulièrement juste, mais comment ne le serait-il pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on fait. Alors, tout à l'heure, vous parliez des maisons de santé, des hôpitaux de proximité. C'est ça, la solution?
Oui, il y a ces solutions-là. Il y a aussi, mais ça, je crois que la Cour des comptes s'est déjà exprimée à plusieurs reprises sur ce sujet. Il y a des vraies difficultés de gestion de la sécurité sociale auxquelles personne n'a jamais osé toucher parce que, peut-être parce que les syndicats y sont extrêmement puissants et que les avantages acquis ne doivent pas être bougés. Mais il y aurait un très grand audit à effectuer des différentes caisses qui manifestement fonctionnent pour certaines d'entre elles en dépit du bon sens. Et puis il y a des mesures aussi de rationalisation, des mesures qui sont simples. Et qui pourrait avoir des conséquences très importantes sur les économies à faire, notamment en matière de médicaments. Bon, moi, je veux dire, c'est la mère de famille qui vous parle. Moi, j'ai 3 enfants. Hein. Donc, avec 3 enfants qui ont maintenant 13 ans, en 13 ans, je dois avoir jeté l'équivalent de 3 armoires pleines de médicaments. J'avais proposé pendant la campagne présidentielle qu'on passe au système du médicament sur ordonnance accordée par unité. Hein. Voilà quelque chose qui serait susceptible, à mon avis, d'avoir des conséquences très positives sur le gaspillage inouï qui existe et qui est fait au bénéfice, il faut bien le dire, des laboratoires.
Ça, c'est une mesure concrète, on l'a bien compris. Est-ce que vous pensez aussi que Bercy, qui impose des coupes budgétaires à tous les ministères, sauf 3, ne devrait pas en demander au ministère de la Santé ?
Je remarque, pour vous donner un exemple, hein, que... Par exemple, en matière d'immigration, au ministère de l'Intérieur, c'est le seul budget qui n'a pas fait l'objet d'une baisse. Bon, ben voilà, il y a des choix. Hein. Vous savez, le budget, c'est le reflet de choix politiques. Est-ce que la santé est une priorité ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Moi, elle m'apparaît être une priorité. Or, je n'ai pas le sentiment qu'on se donne les moyens de pouvoir la faire fonctionner correctement. Et on remarque que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, si vous voulez, il y a quand même un phénomène auquel les Français sont très sensibles, c'est qu'on leur demande de plus en plus. Et ils ont le sentiment, en contrepartie, d'avoir de moins en moins. Une école de moins bonne qualité, une santé de moins bonne qualité, une désertification, moins de policiers, moins de tribunaux, moins d'armées, moins de tout. Et en revanche, en contrepartie, une explosion des impôts. Là encore, c'est un cercle vicieux auquel il faut mettre fin. Car si les Français, je pense, n'ont pas de difficulté avec le consentement à l'impôt, ils finissent par avoir un gros problème de consentement à la dépense.
Alors, avant de passer à un autre thème comme ça sur lequel on vous interroge peu, je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de syndicats qui peut-être bloqueraient les réformes de la sécurité sociale. C'est pas la première fois dans cet entretien que vous en prenez un peu aux syndicats, déjà pour l'accord sur la sécurité de l'emploi. Vous avez un problème avec les syndicats, Marine Le Pen ?
Ah oui, j'ai un gros problème. Je pense que les syndicats sont complices de la situation de destruction de l'emploi. Je pense qu'ils se défendent eux-mêmes et qu'ils ne défendent plus les salariés. Je pense que c'est une machine à engranger de l'argent public sans que les salariés y trouvent le moindre intérêt. Mais je pense que les Français sont assez d'accord avec moi, puisqu'ils ne sont, je crois, que de 7 ou 8% à se syndiquer. C'est donc bien qu'ils ne se sentent pas représentés par les syndicats. C'est la raison pour laquelle je suis pour une grande loi de libération des syndicats. Tout syndicat devrait pouvoir se monter exactement au même titre qu'un parti politique et pouvoir présenter des élus, des candidats aux Français. Et puis tous les syndicats devraient être soumis à la même transparence financière et aux mêmes règles de fonctionnement financier que les partis politiques également. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire.
Il faut réformer les syndicats. Il n'y en a vraiment aucun aujourd'hui.
Il n'y a pas à les réformer. Le problème n'est pas de réformer les syndicats. Le problème, c'est de permettre aux syndicats. Un parti politique peut se créer demain. Eh bien, un syndicat devrait pouvoir se créer demain. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a un monopole qui a été accordé à certains syndicats qui en usent et en abusent.
Très bien. Donc. Je vous ai fait réagir là-dessus. J'aimerais vous faire réagir sur un sujet sur lequel on vous entend moins. C'est l'environnement. Rapidement, je vais prendre un fait comme ça de l'actualité. La commune de Bure, dans la Meuse, qui doit accueillir d'ici 2025 le plus grand centre de stockage de déchets radioactifs de France. Il est déjà qualifié de poubelle nucléaire française par les écologistes. C'est une piscine géante, en fait, enfouie à 500 mètres sous terre et qui fait polémique et qui relance la question de l'énergie nucléaire en France. Quelle est l'opinion du Front National sur ce sujet, puisqu'on l'entend assez peu ?
Écoutez, l'opinion est une opinion de bon sens. L'énergie nucléaire nous permet d'avoir une indépendance énergétique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il nous permet d'avoir de l'énergie quand même à un coût qui est raisonnable et de ne pas dépendre intégralement de pays étrangers, ce qui, sur le plan stratégique, m'apparaît comme un élément essentiel. Donc, c'est pas la panacée. C'est une énergie dangereuse, tout le monde le sait. En l'occurrence, il n'y a pas de possibilité pour l'instant de la remplacer, en tout cas pas par les gadgets écologistes type éoliennes et autres photovoltaïques. Il y a probablement une réflexion à mener sur nos capacités minières, hein, et notamment le grisou, notamment le gaz de schiste. avec des procédés qui soient des procédés qui respectent l'environnement. Donc je pense qu'il faut explorer ces voies-là, fracturation pneumatique, il y a beaucoup de progrès qui sont en train d'être faits, l'investissement majeur dans la recherche sur l'hydrogène, hein, puisque nous sommes un pays très riche de son or bleu, à raison de notre territoire maritime. Voilà, ce sont des sujets qui sont essentiels. Maintenant, encore une fois...
Et c'est possible de les financer dans le contexte actuel? On parlait tout à l'heure des coupes demandées par Bercy.
Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, vous voyez bien que ça, ce sont des investissements d'avenir qui sont absolument fondamentaux et qui surtout vont avoir une conséquence directe en termes d'emploi dans notre pays. Je veux dire, je vois le bassin minier que les avec une stupidité inouïe d'ailleurs, les dirigeants politiques ont accepté de transformer, d'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils ont muséifié le bassin minier, alors qu'il y a demain probablement les conditions pour créer à nouveau de l'emploi grâce aux richesses minières du bassin minier. Mais vous savez, le premier acte en matière d'écologie, c'est de lutter contre la mondialisation sauvage.
Oui, alors, dans votre programme présidentiel, il était question, évidemment, d'écologie, et vous prôniez un nouveau modèle économique soucieux de l'environnement. Je vous cite, « produire au plus près, retraiter sur place ».
Bah oui.
Ça va dans ce que vous disiez?
Tout à fait. Bah oui, c'est la première acte écologique, c'est ça. Lorsque vous voyez que des cochons, avant d'arriver dans votre assiette, ont fait 50 000 km en avion, ou en train, ou en camion, on voit bien que là, il y a quand même une contradiction majeure de la part des Verts à être en même temps des mondialistes convaincus et en même temps, soi-disant, des gens attachés à la défense de l'écologie.
En même temps, quand on lisait le programme d'Eva Joly, il y avait aussi cette mesure de recentrer sur le territoire national la production, les outils de production.
Oui, bien
en
sûr,
tout cas.
Mais c'est pas tout le dire. Il faut politiquement le faire. Or, politiquement le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des droits de douane. Est-ce que Mme Joly est pour des droits de douane aux frontières? Je ne suis pas sûr. Bon, donc il faut se donner les moyens. Ce n'est pas le tout d'avoir un discours et de dire « Ah, ce serait bien ». Ça, c'est la danse de la pluie, ça, vous voyez. Bon, c'est qu'il faut que l'État se donne les moyens d'éviter, justement, les délocalisations et de donner un avantage aux productions.
Alors, il y avait un autre programme présidentiel comme le vôtre qui prenait ça en matière d'écologie, évidemment. Celui de Jean-Luc Mélenchon. Il était aussi pour mettre des droits de douane, un protectionnisme intelligent, comme il disait. Il était aussi pour recentrer la production au territoire français pour effectivement produire plus près, produire plus propre. Finalement, là, c'est un point de rencontre.
Non, pas du tout, parce que lui, il veut mettre des droits de douane aux frontières de l'Europe. Et ça ne règle pas un problème majeur qui sont toutes les délocalisations effectuées dans des pays d'Europe qui font à l'égard de la France un dumping social. Allons pas trop loin, regardons l'Allemagne. L'Allemagne, ses fabriques élèves des porcs, par exemple, hein, en allant chercher du personnel, qu'elle paye 3 ou 4 euros de l'heure. Voilà les conditions d'un dumping social qui va avoir probablement des conséquences très graves sur l'industrie porcine française dans, à mon avis, très peu de temps, hélas. Par conséquent, les droits de douane mis en œuvre aux frontières de l'Europe, ça n'est pas suffisant. Et de surcroît, M. Mélenchon est très malhonnête car il sait que jamais l'Union européenne ne mettra des droits de douane aux frontières de l'Europe pour une raison simple, c'est que l'Union européenne est ultra-libérale. Voilà. Elle a fait un choix, elle est pour la liberté totale des échanges. Et non pas pour une protection aux frontières. Donc elle n'en mettra pas. Voilà. Donc on peut toujours espérer que les choses se passent, mais c'est comme si vous me disiez ce qu'il faut. Est-ce qu'on pouvait à l'époque améliorer l'Union soviétique? Non, on ne pouvait pas l'améliorer. Fallait la détruire.
L'Union soviétique, l'Union européenne, on va peut-être pas pousser la comparaison
jusque-là. Je la pousse complètement jusque-là. Complètement jusque-là. Je pense qu'il y a autant de différences entre l'Europe et l'Union européenne qu'il y en a entre la Russie et l'Union soviétique, tout à fait.
Alors, vous parliez d'un protectionnisme intelligent. Alors, à entendre les politiques, tous leurs protectionnismes sont des protectionnismes intelligents. On voit qu'il y a une différence entre le vôtre et celui de Mélenchon qui dit aussi que c'est un protectionnisme intelligent. Vous, pour qu'on soit bien clair pour nos auditeurs, c'est un protectionnisme donc remettre des droits de douane et un protectionnisme aux frontières françaises,
oui.
Ce qui pose donc un problème avec, vous l'avez dit, nos partenaires privilégiés, ce sont nos partenaires européens. Est-ce que vous pensez vraiment que dans la balance commerciale avec l'Allemagne, ça va pas un peu être négatif pour la France?
Non, je crois que ça va être très positif, au contraire. Voilà, parce que je pense que ça crée de surcroît une ressource supplémentaire. Vous savez très bien que j'ai proposé pendant la campagne présidentielle d'augmenter le SMIC jusqu'à 1,4 fois, de faire prendre en charge par l'État 200 euros des cotisations salariales pour les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, que je finançais par une contribution sociale à l'importation d'un montant dérisoire de 3%. Je veux dire, tout ce qui rentrait dans nos frontières était taxé à 3%.
Il y a aussi des choses qui sortent de nos frontières. Et si ça sort avec nos droits de douane, les produits allemands qui, eux, rentrent surtaxés, vous pensez vraiment que les Allemands ils vont venir nous acheter nos produits quand ils vont sortir de nos frontières ?
Non, mais écoutez, encore une fois, arrêtez avec vos exportations. Pensons, encore une fois, à la reconquête de notre marché intérieur. Parce qu'on n'achètera plus rien à l'Allemagne, voyez-vous, si on n'a plus les moyens de le faire et si on a 15 millions de chômeurs qui est la barre vers laquelle on s'avance très tranquillement quand même. Bon. Donc, si l'Allemagne a envie de protéger ses secteurs économiques en mettant des droits de douane elle-même, elle le mettra. Comment on faisait avant ? On a toujours fait ça. Je veux dire, il y a toujours eu des accords entre les pays, il y a toujours eu des accords d'échange ou de libre-échange. En l'occurrence, les droits de douane ne se mettraient pas, évidemment, dans mon esprit, en priorité à l'égard de nos partenaires européens qui ne font pas de dumping social. Mais par exemple, sur le port, oui, on mettra des droits de douane sur l'Allemagne. Oui, parce que sur le port, ils font un dumping social. Mais sur les autres produits, à partir du moment où il y a un niveau un peu équivalent, il n'y a pas de raison de mettre des droits de douane. Le fait de pouvoir mettre des droits de douane n'est pas le fait d'en mettre partout, en toutes circonstances, à l'égard de tous les pays, sur tous les produits. C'est ça, quand je parle du protectionnisme intelligent, c'est qu'il faut moduler. Je veux dire, c'est de la microchirurgie, mais encore une fois, c'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les États-Unis. Les États-Unis, quand ils ont mis des droits de douane sur l'importation des pneus, c'était pour défendre l'industrie des pneus américains, vous voyez. Donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être caricatural quand on cherche à présenter le programme qui est le nôtre. Et de toute façon, je veux dire, on y viendra.
Bah écoutez, c'est pour ça justement que je vous posais ces questions. Loin de moi l'idée d'être caricatural.
Non, mais c'est pas vous, mais c'est souvent présenté de manière caricaturale. Vous voulez monter des frontières, vous voulez taxer, etc. Non, on veut protéger, encore une fois, résorber cette concurrence internationale déloyale.
Les auditeurs vous ont entendu. Ils se feront leur idée, ça sera le mot de la fin. Marine Le Pen, merci d'avoir répondu. Sans langue de bois, on peut le dire, le contrat a été rempli à mes questions.